Rencontre avec un élu, une émission présentée par Marc Tessier-Dorfeuille, directeur général de Compublic, agence de communication institutionnelle et délégué général du Club de l'accession à la propriété.
Bonjour Ariel Veil.
Bonjour.
Vous êtes maire de Paris-Centre. Donc Paris-Centre, c'est 4 arrondissements qui ont fusionné. Ça fait quoi d'être maire de 4 endroits à la fois ?
Bah écoutez, ça fait beaucoup de boulot, mais c'est une grande fierté.
Alors, Paris, on en parle beaucoup sur le fait qu'il y a peu, finalement, de mètres carrés disponibles pour construire. Donc, comment on recrée une mixité dans cette ville avec, finalement, peu de construction possible ?
C'est vrai. Dans le centre, en plus, c'est le vieux Paris. Donc, parfois, des rues qui sont encore au tracé médiéval, des immeubles qui sont médiévaux aussi, quelques percées haussmanniennes. Et donc, on a peu d'opportunités, mais on les saisit toutes, notamment celle de transformer des bureaux. C'est une opération qu'on vient d'annoncer la semaine dernière, par exemple, rue pavée ou une école et d'anciens bureaux qui déménagent. On en fait un programme mixte. Donc c'est à peu près ma politique partout. Chaque fois qu'on a des mètres carrés à saisir, que ce soit un petit immeuble à acheter, à préempter, ou des plus grands ensembles, et on en reparlera, eh bien, on y met des programmes mixtes, on met du logement social, dans toute sa mixité à l'intérieur même du logement social, et puis de la mixité d'activité avec des commerces et des usages. On en fait partout, on en fait, comme on dit, dans le diffus, c'est-à-dire un peu partout, et puis on en fait sur des grands programmes. Morlan va être livré dans un instant, dans quelques semaines.
Et là, ça sera mixte, Morlan, justement ?
Morlan, c'est un peu le cas d'école de ce qu'on aime faire, un très très grand bâtiment industriel, administratif plutôt, qui est celui de la préfecture puis de la ville, une grande tour, on aime, on n'aime pas, et on, dans le cadre de Réinventer Paris, eh bien on soumet à concours ce projet pour qu'il y ait, il y a à peu près tout dedans, il y a du logement, en accessibilité d'ailleurs, il y a du logement social, du logement intermédiaire, il y a une piscine, il y a une crèche, il y a un hôtel, il y a une auberge de jeunesse.
Les habitants auront tout sous la main.
Il y a tout, il y a même un marché qui va redynamiser tout ce coin de Paris.
Ça, c'est une livraison prévue pour quand ?
C'est là, c'est quasiment fini. Les premiers logements vont être attribués dans les semaines qui viennent.
D'accord. 2022, c'est rempli alors ?
2022, été 2022.
Et là, vous disiez que vous récupériez en effet des immeubles de bureaux parce que celui qui vend vous laisse faire, vous préemptez pour construire du logement social, ou c'est une tendance post-Covid finalement que les bureaux ne se remplissent plus ?
En fait, on utilise toute une gamme de moyens. Parfois on préempte quand on n'a pas le choix. Parfois on achète, on n'a pas besoin de préempter. On achète dans une discussion négociée. Prenez l'immeuble du Tango où on avait envie à la fois de préserver une institution qui était le Tango et surtout de faire du logement social aussi en haut. Parfois on fait une opération groupée. Par exemple, rue pavée, j'ai annoncé ça la semaine dernière, dans un ensemble de vieux hôtels particuliers, et d'un bâtiment industriel en fond de cour, qui vont tous être rénovés au passage, qui étaient très vétustes, eh bien, on a fait une opération, ça m'a pris beaucoup de temps de la négocier, une opération dans laquelle, c'est assez inédit, un bailleur social, un bailleur de la ville, vient acheter une partie avec un investisseur privé qui achète une autre partie. Donc ensemble, ils ont fait une offre d'achat et ça nous permet d'avoir du logement social, des logements particuliers qui vont être des logements individuels pour des publics particuliers et puis du logement privé et des commerces.
J'ai souvenir, parce que vous parlez de bailleurs sociaux, que Paris avait commencé le BRS, le bail réel solidaire. Vous pensez que dans les années qui viennent, c'est une façon éventuellement d'avoir des propriétaires qui auraient les moyens, parce que vu le prix du mètre carré à Paris, c'est quand même très très dur pour des jeunes couples de s'installer à Paris. C'est une des solutions possibles ?
Bien sûr, ça fait partie de la palette d'outils. J'ai rencontré la directrice du fonds qui gère les BRS il y a 2 jours. On en parlait. Bon, pour l'instant, il n'y a qu'un très faible nombre d'opérations, mais c'est très intéressant de dissocier le foncier et le bâti. Ça permet de créer un autre outil qui permet, en gros, on est sur l'accession à demi-tarif. C'est une autre catégorie de propriété. Dans tous les pays, il existe différents types de propriétés. Ça permet en effet de traiter notamment le haut des classes moyennes qui sont à mi-chemin, qui viennent d'ailleurs en majorité du logement social, et pour qui c'est un tremplin pour passer dans la propriété, l'accession à la propriété.
Oui, dans un parcours de propriétaire, on en discutait, parce que vous avez compris que j'anime le club l'accession à la propriété, et en fait, in fine, nous, notre souhait serait tout le monde ne peut pas être propriétaire, mais si tous les retraités pouvaient l'être au moment où on arrive à la retraite, ça donne un reste à vivre plus important, ça pourrait être un objectif politique. Et il y a, à Paris, vous avez dit, notamment dans vos arrondissements, il y a beaucoup d'anciens, mais il y a une seule façon éventuellement de récupérer des mètres carrés, c'est de faire un peu de surélévation. Est-ce que ce sont des choses qui, dans votre arrondissement centre, a été envisagées ?
Ah, vraiment dans le centre, c'est très compliqué de faire la surélévation ou de construire quoi que ce soit, parce qu'on est dans du bâti très ancien, très étroit, il n'y a pas de foncier. Et en plus, on est, et c'est tant mieux, sous des protections qui sont particulières, dans une grande partie du centre, le Marais. Vous avez le plan de mise en valeur et de sauvegarde qui est l'un des deux seuls parisiens. Et donc, vous avez des contraintes qui sont très dures. Cela dit, on le fait marginalement. Et là, par exemple, on a une opération. J'en parlais aussi avec la direction de l'un de nos bailleurs sociaux qui va faire une surélévation, évidemment, dans les règles de l'art. C'est du bois, c'est tout à fait écologique, dans une rue assez ancienne. Mais enfin, ça reste marginal. Ce n'est pas là qu'on fait des mètres carrés de logement principalement. On les fait en transformant des immeubles qui sont administratifs ou des immeubles de bureaux en logement. C'est vraiment ma principale marge de manœuvre.
Et là, dans les années qui viennent, vous avez identifié quelques immeubles qui pourraient avoir cette destination de transformation du bureau en logement ?
Oui, alors on en recherche tout le temps. Là, je vous disais, on a cette opération pavée qui m'a pris plus de 2 ans de négociation pour la mener à bien avec une innovation, c'est-à-dire cet achat privé-public qui se fait en même temps. On a livré dans la précédente mature la caserne des Minimes. Morlan arrive à échéance. C'est un très, très grand programme. Je pense qu'on n'en aura pas d'aussi grand dans le centre de Paris. Il y a des choses à faire du côté des anciens locaux de banque, notamment dans le quartier où on est, là où on se parle, où cette radio a son siège. On a beaucoup d'immeubles industriels qui ont accueilli les sièges de grandes banques qui aujourd'hui, pour diverses raisons, ont besoin de moins de locaux, les cherchent ailleurs. Ça, c'est une opération. Et puis, on continue à être très opportuniste, à saisir des opportunités d'achat. Par exemple, rue Saint-Denis, on a acheté plusieurs immeubles qui sont relativement encore bon marché, si on peut dire bon marché dans le centre de Paris, et qui nous permettaient de faire d'une pierre plusieurs coups, c'est-à-dire à la fois de créer du logement social, mais aussi d'empêcher qu'une partie des mètres carrés parte, par exemple, à du résidentiel touriste, des meublés touristiques, quoi.
Ça, c'est un sujet que je voulais aborder avec vous, parce que vous êtes beaucoup battu contre les locations saisonnières. On est quand même dans des lieux extrêmement touristiques, au cœur de Paris, du vieux Paris. Où en êtes-vous actuellement ?
Alors, il y a vraiment deux types. Il y a ce qui était les particuliers. Je crois que là, on est arrivé vraiment à un plateau. Aujourd'hui, ce n'est plus vraiment le sujet. Les gens, il y a un certain nombre de régulations qu'on a mis en place, de surveillance. La ville de Paris a d'ailleurs gagné un certain nombre d'actions en justice, y compris à l'échelon européen. Et aujourd'hui, je crois qu'on a une bonne régulation qui est en place avec des compensations. En revanche, le grand sujet qui nous préoccupait ces dernières années, c'est la transformation massive de logements, justement, de meublés, de surfaces commerciales en meublés touristiques, ce qui pouvait se faire très facilement. Et nous, collectivité territoriale, la ville de Paris en particulier, nous n'avions aucun moyen. Alors, il y a eu une loi en décembre 2019, dans le cadre du Code du tourisme, qui avait introduit la possibilité pour nous de nous prononcer justement sur l'opportunité de la refuser, notamment d'une transformation de locaux commerciaux en meublés touristiques. Il a fallu attendre 1 an et demi, donc le mois de juin dernier, pour avoir un décret d'application enfin. Hélas, on l'a appelé de nos voeux au conseil municipal plusieurs fois. Ce décret est sorti, nous a permis tout de suite de pouvoir retrouver justement une capacité de refus ou un avis d'opportunité sur ce genre d'opération. On va nous donner des moyens. On regrette, hélas, et ça a fait l'objet d'ailleurs d'un vœu en décembre dernier au Conseil de Paris, on regrette que le décret d'application ait vidé une partie de la substance de cette loi en ne donnant pas la possibilité de nous opposer à la transformation de bureaux. Donc oui, pour les surfaces commerciales, sauf les bureaux. Voilà, donc ce qui est à peu près la moitié des surfaces commerciales qui peuvent être transformées. Donc on continue à demander que ce soit le cas aussi pour les bureaux, mais en attendant, nous avons trouvé de nouveaux moyens de contrôler, de limiter la transformation à l'intérieur de la destination commerciale de bureaux en surface de meublés touristiques.
Et sinon, vous pouvez prendre la décision de préempter.
Alors, c'est un autre des moyens, c'est de préempter, d'acheter des immeubles, ce qui permet dans des endroits qui sont particulièrement visés justement par les promoteurs de meublés touristiques. C'est ce qu'on a fait rue Saint-Denis. On est à 3 immeubles achetés depuis le début de la mandature, achetés ou préemptés. Et puis, au passage, ça nous permet d'appliquer une autre de notre politique. Je dis toujours le logement, l'achat, c'est du logement, et puis c'est du commerce, de l'artisanat choisi aussi.
Alors, on entend dire que Paris s'est un peu vidé de ses habitants. Comment ça se passe dans le centre de Paris aujourd'hui en termes de flux de départ, d'arrivée ?
Ouais, vous savez, moi, je suis statisticien, économiste, statisticien. Donc, bon, je entends les gens faire tirer d'énormes conclusions de chiffres qui sont minuscules à l'échelle de Paris. Paris s'est vidé de ses habitants et le centre en particulier, mais sur un siècle. Et le dernier grand exode, c'est les années 70, où vous perdez, je sais pas, les deux tiers de la population du centre de Paris. Et c'est d'ailleurs, il y a tout un tas de conséquences, dont l'une d'entre elles est le regroupement des quatre premiers arrondissements en Paris-Centre, qui me vaut d'en être le premier maire. Mais on n'a pas massivement de fuite. Pour autant, c'est un sujet qui me préoccupe, et peut-être davantage encore que les flux de sorties absolus. Je remarque d'ailleurs que dans le 4e arrondissement, dont j'étais le dernier maire, on a eu plus 4 ou plus 5% dans les 5 dernières années de population. Ce n'est pas tellement le sujet de la population en général, c'est quelle répartition. Et moi, ce qui me préoccupe, notamment dans le centre de Paris, c'est qu'on puisse retenir et faire venir des familles.
Vous aimez la diversité sociologique. Aujourd'hui, votre objectif, c'est de faire revenir des familles dans le cœur de Paris.
Alors revenir, oui, c'est de les garder, c'est d'en faire revenir, d'en faire venir davantage. Et donc, on s'y emploie. Lorsqu'on crée du logement social, on veille à avoir des grandes surfaces, quitte à avoir moins de logements, mais à avoir cette diversité, oui, sociologique et aussi intergénérationnelle. On a besoin de recharger l'arrondissement en jeunes qui vont rentrer dans nos crèches, dans nos écoles, et qui vont pouvoir permettre d'avoir toute la diversité des âges qui fait une ville.
Quelle est dans le logement social sur lequel vous avez plus la main, quelle est la taille du logement moyen aujourd'hui proposé justement dans le centre de Paris? C'est des deux pièces et des deux, trois pièces?
Vraiment, on essaye d'avoir toute la diversité et des catégories de logements sociaux, vous savez, du très social à l'intermédiaire, peut-être demain au BRS, à l'accession à la propriété avec ce bail particulier. Et pareil sur les surfaces. On a besoin d'avoir des T1 parce qu'il y a des programmes pour des étudiants, pour des migrants, pour des personnes qui sont en danger, ou pour simplement des gens qui sont célibataires ou des couples. Mais on a besoin d'avoir, et souvent c'est sous-évalué, donc nous on pèse beaucoup pour avoir aussi des grandes surfaces.
Merci Ariel Veil pour cette rencontre aujourd'hui autour de vous. On a bien compris qu'il y avait de l'immobilier disponible, particulièrement dans l'immobilier de bureaux, que l'on pourrait transformer en logement. Très bonne journée à vous et à bientôt.
Merci beaucoup.
Rencontre avec un élu, une émission proposée par Compublic, agence de communication institutionnelle. À réécouter et télécharger sur les sites et applis de Radio Immo et Radio Territoria.